puis, plus. On fait plus, si tu veux.
Ah ben vous l'avez pas du tout. Il y a toute une partie du 3 qui n'est pas du tout dans la traduction. Ah non, non, oui, c'est des résumés. Il y a des morceaux. D'accord. Alors c'est. Oui, c'est 3. Et on est au nom de Rav Zecharia, je pense. Dans le français, c'est au milieu de la page, 179. Avsharia au nom de Rabba Acha. Et dans le l'araméen, c'est en bas de la page. En bas de la page du, qui contient le guimel. Bon, j'ai pas la page. J'ai effacé, donc je ne peux pas vous dire. J'ai une Samartet probablement. Samartet, oui, c'est ça, Samartet. En bas de Samartet. Voilà, tout le monde y est. Alors je reprends. On avait vu donc le. Le fait qu'on ne pouvait plus nommer Abraham avec le nom Abraham. Et maintenant, lui, le Malach, et ensuite ça sera confirmé par Hachem, il a dit à Yaakov, il allait s'appeler Israël. Alors, quatre lignes avant la fin, il dit, « Dichvata, koreli Israël Yaakov, au verbe assez. » Celui qui appelle Yaakov Israël, celui qui appelle Israël Yaakov, il transgresserait le Asé, la mitzvah Asé, puisqu'Hachem a dit on t'appellera Israël. Alors, Tané, Loché. Alors on corrige, on dit non, c'est Loché Yaker Shem Yaakov. C'est pas comme chez Abraham ou chez Sarah, où on a enlevé complètement le nom Avram et le nom Sarai, on les a remplacés définitivement, complètement, par Abraham et par Sarah. Et là, qui im Israël yeshmecha, et yeshmecha, qu'est-ce que ça veut dire? Israël yé ikar veYaakov tfela. Tu auras deux noms, mais il y aura une hiérarchie entre les deux noms. Ton nom principal désormais c'est Israël, et tu as un nom secondaire, en quelque sorte, un nom qui est Tafel, qui est moindre que Israël, qui est Yaakov. Et Rav Zecharia, Beshem Rav Acha, il dit le contraire, il dit, mais kol makom Yaakov shimcha, ela ki im Israël yeshmicha, shmecha, pardon, Yaakov ikar, Israël mosif alav. Donc il y a deux lectures. Une lecture qui dit, ton nom, ton vrai nom, c'est maintenant Israël. Il y a un nom Tafel, il y a un nom secondaire. Il faudra se demander pourquoi on a besoin d'un nom secondaire, c'est-à-dire qu'est-ce qu'il indiquera, qu'est-ce que voudra dire l'utilisation du nom secondaire, qu'est-ce que ça change. Et là, on dira, par exemple, on dira que quand Israël est. C'est-à-dire, c'est pas sur la personne de Yaakov, mais c'est essentiellement sur le clan Israël par la suite. Quand le clan Israël ça sera dans une phase. Dans une bonne phase, épanoui, alors il sera appelé Israël, et quand ça va moins bien, alors on l'appellera Yaakov. C'est la première lecture. La deuxième lecture, elle dit, non, ton nom reste Yaakov. Simplement, je te donne un nom qui va ajouter à ce nom qui est Israël. C'est pas que Yaakov dégringole, comme dans la première version. Yaakov reste au niveau où il était, c'est ton nom. Et je suis mossif, j'ajoute quelque chose. C'est un ajout, Israël. C'est pas une substitution qui fait dégringoler l'autre nom à la position de Tafel.
Dans le premier cas,
s'il n'est pas lui à la hauteur du nom
Israël. Oui, c'est ça, c'est lui, si le clan d'Israël n'est pas à la hauteur, il n'est pas à la hauteur de porter ce nom-là. On est obligé de dire quelque chose de ce genre-là, parce qu'on voit que par la suite, Hachem lui-même va continuer d'appeler Yaakov Yaakov, il ne lui dira pas systématiquement tout le temps Israël. Bon, il faudrait réfléchir sur ce que ça peut bien vouloir dire, par cette discussion entre les deux ici, pour savoir s'il y a substitution d'Israël à Yaakov. En tant que nom principal, jusque-là c'était Yaakov et maintenant on substitue Israël, du coup Yaakov devient Tafel, il devient secondaire. Ou bien non, Yaakov reste, c'est seulement un ajout. Comme si on disait, ouais, les jours de fête, tu t'appelleras Israël, quoi, mais ton nom c'est Yaakov, simplement. Quand on sera très joyeux, on t'appellera Israël, quelque chose comme ça. Qu'est-ce que ça peut bien vouloir dire, cette discussion de savoir si on va substituer un autre nom ou si on va seulement lui ajouter un autre nom. Dans la substitution, on ferait avec son nom ce qu'on a fait avec Abraham et Sarah. On a substitué. Sauf que on garderait quand même la possibilité du nom Yaakov. Le nom Yaakov ne sera pas complètement effacé, même d'après la première lecture. Il deviendra Tafel, tandis qu'Abraham ou Sarah n'ont plus le droit de citer du tout. Les anciens noms d'Abraham et de Sarah, on les a complètement enlevés. Mais disons, il y a bien une notion de substitution. Chez Abraham.
Ça traduit, on va dire, une transformation définitive de la passée.
C'est ça, oui. Là, un autre nom, quoi, c'est autre chose.
Dans la vie avec l'ange, on se passe des choses, mais ça n'est peut-être pas une transformation intégrale entre ce qui était Yaakov avant et ce qui est après.
Peut-être qu'il faut qu'il ne cesse pas d'être ce qu'il était, mais qu'il y a un élément supplémentaire. Je ne sais pas si ça explique quelque chose, mais pas faire ce qu'il était.
Moi, ce qui m'étonne, c'est que en fait, Yaakov devient Israël après son combat et son succès de l'ange. Pourtant, ici, on est à l'époque de Jacob, on a commencé donc à dire alors, béni Israël, béni Israël. Quand est-ce qu'on commence à appeler Israël ?
Au début de Sefer Shemot, là maintenant on a parlé de Bnei Israël. C'est les Bnei Israël, c'est les enfants d'Israël, les enfants de Jacob.
C'est à l'époque
de Jacob déjà. Jacob, bien sûr.
Donc il n'y a pas une histoire du tout ici de ce qu'on ressent au moment de la libération en Égypte, de la formation d'un peuple.
C'est avant. On est déjà en amont. C'était déjà vrai en amont.
C'était déjà vrai.
Les Bnei Israël souffrants, ils s'appellent déjà Bnei Israël.
Voilà.
Enfin, on a l'impression, si on regarde ce qui se passe à Abraham, Yitzhak et Yaakov, c'est que chez Abraham, on lui a changé complètement son nom. Yitzhak, on lui a gardé son nom. Et on pourrait dire, Yaakov, on lui a ajouté quelque chose. Et ça, c'est seulement dans la version où Israël est Mossif, la deuxième lecture ici. Là, on comprend, on voit bien la progression. D'accord ? Ça veut dire, Abraham, il a fallu le qualifier parce qu'il vient de l'extérieur. Donc, il a fallu changer son nom, quoi. Quelque part, il vient de l'idolâtrie. Et puis maintenant, on lui donne un autre nom. Yitzhak, il est né dans... Il est né, il a eu la Mila, etc. Donc, bon, voilà, il est ce qu'il est. Et le... Si vous voulez, ou bien on pourrait dire, Abraham, c'est s'arracher au passé, Yitzhak, c'est sans avoir les deux pieds dans le présent, si on veut, et Yaakov, ben, c'est pour le futur. Puisqu'il a gagné un futur, il s'est inventé un futur, il a battu l'ange des Saves, il a assuré la fin de l'histoire, en quelque sorte. Donc on pourrait se dire, voilà, c'est ça, le travail se lit sur les noms.
C'était ça la réponse.
Oui, mais le problème, c'est que je ne sais pas quoi faire avec la première lecture, comme ça.
Ah oui, parce que j'ai été à la fois, si vous dites là, il se doit de rester dans la lignée à travers son premier nom, et il est déjà...
Il peut ajouter, mais maintenant, il y a quand même la première lecture qui dit que c'est non, c'est une substitution, et du coup, l'autre, il est là, mais on ne sait plus très bien... Qu'est-ce que ça veut dire, Tafel? Avoir un nom Tafel, c'est une drôle d'idée.
Tafel, ça veut dire quoi?
Tafel, c'est secondaire. Ça change complètement puisqu'on dit là, on dit Avraham et Nomolid. Avraham. Avraham, il n'a pas de futur.
Oui, mais justement, il y a une continuité à partir de quelque chose d'un état où il n'y a pas de futur. On n'est pas parti de rien.
Ça n'existe pas de partir de rien.
Non, mais je dis, on vit. Alors que justement, ici, entre Yaakov et Israël, il n'y a rien à voir. Et vraiment, c'est deux choses complètement différentes. Alors, dans Abraham, on rajoute une lettre.
Oui, mais c'est pour ça que la deuxième lecture, elle dit Israël, c'est motif quand même. Même si c'est pas, ça se lit pas dans le nom, mais ça s'appelle motif quand même. C'est-à-dire que on a gardé l'ancien nom et on a ajouté. C'est-à-dire qu'on a ajouté. À la limite, parce qu'il s'est qualifié. Il a son nom de qualifié, quoi, quelque part, suite à la lutte avec lui. Et ça, c'est la spécificité de ce nom-là. Mais pourquoi est-ce que on substituerait un autre nom? Mais c'est pas une substitution définitive, quoi. C'est
sans complètement l'opposer à la deuxième lecture, en tout cas dans la première, il va complètement laisser sa place au futur, du coup. Il est possible dans la deuxième lecture le nom d'Israël parce qu'il a créé ce futur-là, et dans la première lecture, c'est au point qu'il va laisser sa place à ce futur-là.
Non, mais il ne le substitue pas sans... Ça n'allume pas le nom de Yaakov, c'est ça le problème. C'est quel est ce stade? Qu'est-ce que ça veut dire, Tafel? Si on avait dit que la première, qu'il y a une lecture qui est comme Abraham, c'est-à-dire une lecture qui dit on l'appellera plus jamais que Israël, et une autre qui dit on l'appellera Yaakov, et on l'ajoutera, je comprends ce que vous dites. Mais qu'est-ce que c'est que ce statut d'un Shem Tafel? Je sais, j'arrive même pas à me représenter ce que c'est qu'un nom qui serait secondaire. Donc, bon, je vous ai dit ce que ça veut dire, en fait, mais c'est difficile. C'est son nom quand. Comme si. La première lecture, elle admet que Israël aurait des faiblesses, que le futur n'est jamais complètement acquis, c'est-à-dire qu'il va y avoir le futur, c'est son nom dans le futur, d'accord? Et jusque là, il y a des moments où il sera que Yaakov, c'est-à-dire des moments où on sait très bien qu'il a gagné, mais qu'est-ce qu'il a gagné? Il n'a pas gagné de sorte qu'il n'y aura plus jamais aucun problème dans sa vie. Il a l'assurance que ultimement ça tournera bien finalement, mais que dans l'entretemps il va y avoir des hauts et des bas.
Il y a des va-et-vient, en fait. Il y a des va-et-vient, comme pour le peuple d'Israël. Si on considère que qui s'est battu contre l'ange et le Ferrara, et le peuple juif, lui, il va toujours comme le Ferrara. avec des moments où il est victorieux et des moments où il est.
C'est ça que ça veut dire, oui.
Voilà, et donc quand il perd, il est d'accord, quand il reste Israël, et quand il gagne, il est d'accord.
C'est ça, ça a l'air d'être. Ça a l'air d'être ça, il faut comprendre que. Ça voudra dire, enfin, ça veut dire ici, que cet état d'Israël n'est pas quelque chose de définitivement acquis. C'est acquis pour le futur. Enfin, c'est-à-dire, tu l'auras. C'est un peu comme la promesse de la terre. Quoi.
Est-ce que ça peut être dynamique de passer de l'un à l'autre tout le temps? Enfin, d'avoir la possibilité tout le temps, pas tout le temps.
Mais il ne choisit pas de passer de l'un à l'autre. Enfin,
non, mais d'être dans cet état.
C'est Tafel, Tafel. C'est pas qu'il a deux noms. Qui sont...
ouais.
Il y en a un qui est Tafel, qui est secondaire. Ça veut dire. Secondaire, ça veut dire, c'est une espèce de nom qui viendrait en second quand tu ne mérites pas celui-là. Quoi. Quelque part, il y a quand même un autre nom.
Mais il me semble que ça dit un peu, n'oublie jamais d'où tu viens, enfin, d'où tu pars et pour où tu vas. Enfin, c'est pour ça que je parle de dynamisme, de l'un à l'autre même.
Enfin, ça peut faire référence à la sortie d'Égypte, c'est-à-dire que le sens que dire. C'est ça être juif, quelque part. C'est ça, avoir goûté à une certaine liberté que les non-juifs n'ont pas goûté. Et donc, d'une certaine manière, tu y as goûté, mais tu n'y es pas tout le temps. Dedans. C'est-à-dire que tu n'es jamais complètement juif, tu es toujours en train de
vivre. Il y a déjà un travail à faire.
Voilà, c'est ça.
On va bientôt terminer, bien. Qu'est-ce que tu fais, Yaakov, là-bas? C'est pas... incroyable.
Excusez-moi, c'est pas moi, j'ai coupé mon micro, donc ça peut pas être moi.
Ah, il y a donc quelqu'un d'autre?
Il y a quelqu'un d'autre. Et je suggère à tous les participants de teindre leur micro. Bien sûr, sur vous, hein.
De toute manière... Donc on a l'impression qu'effectivement ça fait référence à ce travail permanent et qu'on prend en compte, ça veut dire que d'une certaine manière, c'est une assurance que le clan d'Israël, quand il retombe, quand il tombe, il ne devient pas complètement nul, il retrouve son statut de Yaakov et on peut recommencer. Vous avez raconté une fois, c'est un peu quelque chose d'analogue, avec la bracha du matin, on fait la bracha chez le Hassani Goy, ou bien chez le Hassani Nofri, je ne sais pas comment vous dites, chez le Hassani Obed Kochavim, comme, je ne sais pas ce que, ben quoi que vous disiez, peu importe, pardon. Et la question qui se pose, c'est pourquoi est-ce que c'est dit sous cette forme-là, pourquoi on ne dit pas chez Hassani Israël? De la même manière, on dit chez le Hassani Aved ou bien Shifra, et on ne dit pas chez Hassani Ben Khorin, le fait libre. On a expliqué que, en fait, ce qui se passe, c'est que tant la liberté que l'arrachement à l'idolâtrie sont des processus qui sont infinis. L'accession à la liberté et l'accession à la non-idolâtrie, c'est un processus infini. Seulement, il y a un seuil à partir duquel on est réputé libre, c'est-à-dire non-esclave, et un seuil à partir duquel on est appelé Israël. Mais ça veut, ne t'imagine pas que du fait que tu es Israël, tu as réglé tous les problèmes de l'idolâtrie. Ne t'imagine pas que parce que tu n'es pas esclave, tu as formellement, tu n'es pas appelé Eved ou Shifra, que tu n'es pas esclave quand même. C'est un travail permanent. C'est pour ça qu'on dit, essentiellement, on demande à, puisque les brachot, c'est demander à Hachem d'amplifier. On demande à Hachem d'amplifier notre non-idolâtrie, en quelque sorte. D'amplifier. Non pas la liberté, mais d'amplifier notre non-esclavage. Nous aider à nous arracher de l'esclavage. Pardon ?
Qu'est-ce que vous faites avec Isha ?
Je fais la même chose. Je fais la même chose parce que initialement tout est féminin. D'une part, et deuxièmement, il se trouve, Akadosh Baruch Hu a fait en sorte que ce ne sont pas les femmes qui donnent naissance aux filles et les hommes aux garçons, mais que ce sont les femmes qui donnent naissance aux garçons et aux filles. Ce qui fait que quand quelqu'un naît, il doit s'arracher à celle en laquelle il s'est développé, quoi. Il a été conçu et il s'est développé. Et en fait, ça veut dire que les hommes, en réalité, ils ont deux cordons ombilicaux à couper. Il faut couper le cordon ombilical exactement comme une fille coupe le cordon ombilical avec sa mère aussi. Mais le garçon, il doit se séparer du sexe de sa mère. Tandis que la fille, elle ne se sépare pas de cela. Et c'est pour ça que... Et visiblement, c'est difficile. C'est difficile d'être parfaitement mâle, si vous voulez. C'est un arrachement permanent. Il y en a qui, toute leur vie, ils n'arrivent pas à s'arracher. Ils ne s'arrachent pas... En fait, ils ont coupé le cordon ombilical avec leur mère, mais seulement physiquement. Pour le reste, ils sont encore complètement attachés à leur maman. Et donc, ce qu'on demande à Hachem, ici, c'est Hachem nous aide, chez lo asani isha, de la même manière chez lo asani eved ou goy, aide, fortifie en moi cet arrachement nécessaire qui n'est pas du tout évident. Et les filles, elles disent chez asani kirtsono, parce qu'elles n'ont pas de deuxième arrachement à faire. Mais au contraire, là, il y a un nouveau problème, qui existe aussi chez les hommes d'ailleurs, mais peut-être, qui est qu'on a toujours envie d'être autre chose que ce qu'on est.
Comment les rabbins
de... Je ne vous dis pas que les rabbins, ils ont pensé ce que je suis en train de vous dire. Je vous dis simplement que moi, je le comprends aujourd'hui comme ça. Si vous avez une autre lecture, Inematov Manaïm. Maintenant, on peut aussi expliquer qu'il y a plus de mitzvot à être un homme qu'à être femme. Et qu'il y a plus de mitzvot à être un homme libre qu'à être un eved, et que c'est ça qu'on met en avant. Mais je ne sais pas si c'est tellement différent de ce que je suis en train de dire. Oui, mais si on leur explique que c'est comme ça qu'il faut l'entendre, c'est quand même beaucoup moins révoltant. Pardon ? Oui, c'est vrai. Ouais. Mais on l'enseigne comme ça quand même, depuis pas mal de temps, aux filles aussi.
Donc ça veut dire que...
Ça va Thierry ?
Oui, c'est parfait.
Tu peux continuer ?
Ouais. Ça veut dire que ça se confirme tous les jours.
L'Israël aussi.
Oui, c'est ça.
L'Israël, c'est quelque chose qui est... Voilà,
c'est... Et c'est passé dans ce que vous disiez, c'est-à-dire par rapport au fait que dans la prière du matin,
oui, ça c'est pour... Oui, c'est ça, mais disons, Jacob, il n'était pas non plus idolâtre. Abraham, il était idolâtre. Donc, avant de devenir, de reconnaître, oui, il vient de... Dans sa maison, que ce soit jusqu'à 3 ans ou jusqu'à X années, peu importe, mais il sort de l'idolâtrie.
Juste pour revenir sur une petite image, sur Jacob, en fait, le fait qu'il s'appelle Jacob, c'est...
Et il d'ailleurs, on pense qu'il y a un peu de l'événement
de la Vébora,
parce qu'il lui achète la Vébora. Et Yagveni, c'est pas à Maïk.
Maintenant, encore une deuxième fois, tu vas rouler. Non,
la deuxième fois, c'est les
Brachot.
Du nom d'Adam à Israël, mais...
Une fois qu'il s'appelle Israël, ça veut dire que maintenant,
Maintenant, il le mérite. Parce qu'il est rachis sur le Bassout. Vous avez dit, rachis sur le Bassout. Maintenant, tu t'appelles Israël. Parce que jusqu'à présent, tu les avais eus par la ruse. Tu avais eu cette. Tu avais arraché ça. Mais maintenant, par ce que tu viens de faire avec l'enfant et ce que tu viens de faire chez la vanne, eh bien maintenant, tu mérites cette première place. Que tu essayais de tirer ce premier. Parce que. Alors, je ne sais pas comment.
C'est ce qu'il faut ajouter, si on va aller dans ce sens-là, ce qui est tout à fait possible, c'est Yaakov s'est réminiscent de deux choses. Il y a une partie qui est innée, il est né en tenant le talon donc c'est dans l'inné, c'est ce qu'on t'a donné, et puis il y a une partie qui a été acquise, mais d'une façon, en tout cas, qui, aux yeux des saves, n'est pas reconnue. C'est-à-dire, tu m'as roulé. Vayak venize pa'amaim, comme il dit, il m'a roulé deux fois. Une fois, il m'a vendu la prora, il m'a acheté la prora, pardon. Alors que il a profité de, j'étais affamé, etc., et que j'avais pas le temps de réfléchir à ce que je vais vendre ça parce que, bon. Et deuxième fois, il a pris les brachot. Donc, ça veut dire que même si, effectivement, c'était ce qu'il fallait faire, mais ce n'est pas reconnu. Alors qu'Israël, et c'est probablement pour ça que son nom d'Israël lui est donné d'abord d'après la lecture qui dit que c'est le sar chez les saves, c'est l'ange des saves contre lequel il a lutté, et que c'est lui qui lui a donné pour le premier. En premier, ce nom d'Israël, bien sûr, Hachem l'a confirmé, c'est parce qu'Hachem l'a confirmé qu'il l'a gardé. Mais à ce moment-là, on peut dire effectivement, le sar chez les saves reconnaît. Il te reconnaît dans ce que tu es. Donc ce nom-là n'est pas seulement un nom dans lequel il y a le nom divin et qui parle du fait que tu as vaincu, etc. Mais aussi, c'est quand même réminiscent de ce que ça porte. Il porte en soi ce nom-là. La reconnaissance par le sar des saves, c'est-à-dire la reconnaissance de la valeur absolue de Yaakov. Donc si on veut, rétroactivement, ça valorise ou justifie, je ne sais pas, en tout cas, ça veut dire ça bonifie en tout cas rétroactivement ce qui s'est passé avec son nom de Yaakov. Bon, alors, ce qui est inné, c'est inné. Alors maintenant, la prora, il est vendu la prora du point de vue de Yaakov, qu'il ait acheté la prora à Esav, c'était normal. Il ne voulait pas que la prora soit dans les mains d'Esav. C'était tel que lui, il savait qui était Esav, il ne voulait pas. Et Rivka, qui sait aussi qui est Esav, elle ne veut pas qu'il ait les brachot et que. Ça aurait été un désastre de première grandeur si ça avait reçu les brachot. Le gars dit qu'Israël aurait quasiment rien pu faire.
Mais l'ange des sables, il le reconnaît en quoi? Il reconnaît qu'il a vaincu et il reconnaît qu'il mérite d'être le
il lui donne, parce que tu as vaincu, c'est lui qui lui donne ce nom-là. Tu as lutté avec les anges et tu as gagné.
Une question peut-être un peu légère. Est-ce que Esaü était conscient que Jacob allait se battre contre son ange?
Ah, il ne le savait pas.
C'est curieux parce qu'en fait, vous me disiez, je crois que les marfines étaient envoyées.
Oui, mais ça, je ne sais pas. Si vous voulez, même Yaakov, il ne saura que c'est l'ange des saves que bien plus tard. D'où est-ce qu'on sait? Parce que quand il dit, j'ai vu ton visage. Où est-ce que c'est dit en français aussi? Oui, là, ça vient tout de suite après, là, j'ai... Un paragraphe qui commence à Frama Bar Hanina, c'était le prince des Saves. j'ai vu ta face comme on voit la face d'Elohim. D'accord ? C'est à ce moment-là, hein, il voit Esav et il comprend que l'ange avec lequel il a lutté, ce Ish, parce que celui avec lequel il a lutté, il s'est présenté comme un homme, comme un berger, comme un brigand, etc. Ce qu'on avait vu avant. Là, tout à coup, il comprend quelque chose. D'abord, l'autre, il a compris que c'était un ange. Après, il comprend que c'est le prince des Sables. C'est-à-dire, on a l'impression aussi de ce midrash que tout le monde ne le pense pas comme ça. On pourrait dire que cet ange, c'était autre chose. C'est quelqu'un qui l'a mis en cause, qui a remis Yaakov en question, en fait. Mais pas obligatoirement l'ange des Sables.
Lui, il pensait se battre contre un
homme. Au départ, c'est un ange qui lutte contre lui. Après, il comprend. C'est un ange, puisqu'il lui parle, il lui dit « Laisse-moi partir, je dois aller dire Shira, etc. » Non, ça, il comprend. Maintenant, qui il est, il ne sait pas, puisqu'il lui demande son nom et que l'autre ne lui répond pas. Mais probablement, il comprend que c'est le prince d'Esav quand il voit Esav. Il voit Esav et il fait tilt, il dit « Ah, je t'ai déjà vu. Voir ton visage, j'ai déjà vu ça. Dans l'ange avec lequel je me suis battu, je comprends que peut-être qu'il avait des tresses qui maintenant correspondent ou il correspond à Esav, quoi. » Non, je...
va aller se battre avec Jacob. Et c'est ce combat qui va être déterminant en définitive pour que Jacob devienne Israël. Donc c'est curieux parce que ici c'est comme si en fait le malheur de Esav souhaite en fait, tester la valeur de Jacob.
Mais c'est ça son boulot. Son boulot, c'est d'essayer de faire tomber Jacob. Et il a pour ça un laps de temps jusqu'au matin, jusqu'à l'aube. Jusqu'à l'aube. Et à l'aube, c'est terminé. Si Jacob tient le coup, parce qu'en fait, Jacob n'a pas gagné. Jacob n'a pas perdu. D'accord, l'autre, il a touché terre, mais bon. Et ensuite, Jacob aurait dû le laisser partir. On va voir, il ne l'a pas laissé partir, c'est une erreur. Il devait le laisser partir. Parce que c'était terminé. L'épreuve, elle avait une durée bien précise. C'est comme si tu te bats après le...
Un homme peut même tenir, ne pas perdre devant un malheur qui est...
Ça convient dire. C'est-à-dire que, ça veut dire que quelque part, Jacob est son propre malheur. Si on considère qu'une lutte avec un malach ne peut se faire que si on est un malach, ce que le malach reconnaît, c'est que tu as lutté avec un malach et tu as gagné. Donc tu es ton propre malach. Et c'est ça la source de cette ligne directe que les Bnei Israël disent et veulent avoir avec Hachem, sans passer par un malach. C'est pour ça que Moshe Rabbeinu, par exemple, quand Hachem lui dit, quand Hachem dit « Je vais détruire les Bnei Israël à la suite du Vaudor », Moshe Rabbeinu négocie, et Hachem lui dit « Ok, je vais envoyer un malach qui va vous guider à Moshe Rabbeinu. Si tu nous envoies un malach, on va être un peuple comme les autres, je ne marche pas. Niflinu, je veux que nous soyons singularisés par rapport à tous les peuples. » C'est-à-dire avoir une ligne directe. Nous, on n'a pas de... Je dis toujours que tous les peuples ont un Dieu, sauf les Bnei Israël. Ils n'ont pas de Dieu. Nous, on n'a pas de Dieu. C'est eux, ils ont des dieux, nous pas. C'est ça.
C'est-à-dire, pour revenir en parallèle entre Jacob, en tant que personne et le peuple, c'est-à-dire que quand le peuple d'Israël est dans un niveau de Jacob, ça veut dire, c'est de dire que son statut qu'il a d'être le peuple que Dieu a choisi.
C'est comme si à ce moment-là il était pour rien.
C'est comme si c'est un petit peu comme il est dans la dimension de Jacob qui a arraché d'Abraham et qui ne mérite pas encore.
Oui, il est comme s'il était pour rien, quoi.
Quand il est Israël, c'est que là il mérite pleinement le rôle qu'il a.
C'est ça.
La place qu'il a.
C'est-à-dire que finalement, toute cette bagarre et le fait qu'il ait vaincu, c'est en quelque sorte une façon de donner du courage pour dire c'est jouable. Parce que sinon, qui dit qu'on peut gagner contre ça?
Et puis ça valide ses actes comme n'étant pas on disait il m'a roulé, comme n'étant pas une tromperie, mais au contraire.
Non, il a été trompé. Il a bien été trompé.
Non, mais si,
mais ça va. Il y a des situations où on doit tromper quelqu'un. Ça veut dire, il y a des situations où, avec certaines personnes, tu peux fonctionner que de cette manière-là. Oui, le combat moral, il est introduit par le fait que cette bataille-là, cette guerre, cette lutte, elle est introduite par l'histoire des Pachim Ktanim. Pourquoi Yaakov se trouve tout seul, vous vous souvenez? Pourquoi il est tout seul contre... il est là tout seul? Parce qu'il est revenu en arrière. Et pourquoi est-ce qu'il est revenu en arrière? Pour chercher les fameux petits raviers, là, etc., de rien du tout. Et on dit parce que... on fait attention à Gezel. Et c'est ça le problème. On peut le lire comme ça, que quand les Bnei Israël disent nos ancêtres, ils faisaient attention au vol, peut-être particulièrement regardant à ne pas voler. L'autre en face, il entend, tu me traites donc de voleur.
Et toi, il aurait pu laisser ces petites choses.
Il peut les laisser. Quand tu déménages, quand tu déménages, il n'a pas fait exprès peut-être non plus.
Parce que ça n'a pas de la valeur, il peut faire yéouche, c'est tout.
Oui, tout à fait.
Il n'y a pas de problème.
Oui, mais ça, le problème, c'est que les Avot, vous avez déjà expliqué que les Avot, quand ils voulaient acheter quelque chose, quand tu achètes quelque chose à quelqu'un, la chose, elle est liée à celui qui l'a fabriqué. Nous, on ne comprend pas parce que tous nos trucs, ils sont fabriqués à je ne sais pas combien de millions d'exemplaires à Taïwan. D'accord ? Donc, il ne s'est pas attaché à son propriétaire. Mais pour comprendre, il faut s'imaginer, vous achetez un tableau à un peintre. Vous allez chez M. Liani, et vous dites, je vais acheter un. Il dit, je ne te vends pas. Juste quand il n'a plus à bouffer, et il n'a pas d'argent pour acheter de la couleur, il n'a pas de quoi manger, alors il te cède un tableau. Et d'ailleurs, les peintres, quand ils te cèdent, savoir que, vous savez sûrement, ouais, que le Rembrandt que vous avez chez vous, Ilan, si Rembrandt vient chez vous, il dit, je veux me corriger un peu, vous ne pouvez rien faire. Non, c'est son droit. Un peintre, il peut toujours venir et modifier le tableau qu'il a fait.
Vous voulez acheter des œuvres d'art quand les artistes
sont morts? Sont morts, oui, c'est mieux. Non, c'est pour ça que j'ai compris que vous avez acheté un Rembrandt.
Donc, Yaakov,
qu'est-ce que tu dis? Yaakov, qu'est-ce que tu dis?
Il a aussi fait quelque chose qui...
Dis-moi, mets l'autre moitié du micro aussi, s'il te plaît. On n'entend que la moitié.
Pardon?
On n'entend que la moitié.
Une petite chose qu'il a acquise.
Oui. Il a acquise ces choses, quoi?
Alors. Oui, elles n'ont pas beaucoup de valeur, donc ils peuvent faire yéouche, c'est fini.
Non, alors j'étais en train d'expliquer que les Avot, quand ils achetaient quelque chose, ils voulaient l'acquérir complètement. C'est-à-dire, ils voulaient qu'il ne reste rien, aucune adhérence du propriétaire ou du fabricant à ce qu'ils avaient acheté. Ils ne voulaient pas, faut bien imaginer, c'est... Eux, ils savent qu'ils sont en train de construire le clan israélien, ils se construisent. Dans la phase de construction, on ne peut rien permettre. Parce que si tu as le moindre écart, le moindre défaut, ensuite ça fait la tour de Pise. Après, quand tu as commencé à compter, quand tu as commencé à construire tout en haut, il peut y avoir des écarts, c'est beaucoup moins grave. Mais s'il y a un tout petit écart en bas, c'est... Et donc les Avot ne voulaient pas qu'il y ait quoi que ce soit... quelque adhérence que ce soit, les adhérences, c'est les problèmes de tréfa. Les animaux, un instant, jeune homme. Et donc, il ne voulait pas qu'il y ait quoi que ce soit d'adhérence. Et donc, pour être sûr que l'autre te le vend, Comment là-bas, c'est des artisans qui vendent, c'est pas des marchands de Taïwan. J'ai rien contre Taïwan. Hein, mais alors, il faut. Qu'est-ce qu'on est obligé de surpayer? De surpayer, de trouver quelqu'un dont on voit vraiment qu'il est prêt à lâcher complètement l'objet. C'est pour ça qu'Abraham, par exemple, il a surpayé Marat Amarpella. Parce qu'on peut demander comment. Ça ne valait pas des clous, il a payé Arba Meot Kesef. C'est-à-dire, il a 400 pièces. 400 dans la Torah, ça veut dire tous azimuts. 400, c'est les quatre directions du plan. Ça veut dire le monde entier. Quoi. Il a acheté. Il pouvait acheter toute la terre avec ça. Tellement il a payé cher. Mais la question se pose. De quel droit il a. Pourquoi il gaspille son argent pour ça, Abraham? On est comptable de l'argent qu'on a. S'il avait dit à Ephron, pourquoi il ne marchande pas? Il pouvait, en plus, il pouvait prendre Ephron à son propre piège. Quand Ephron dit, mais non, si je te le donne, etc., personne ne va, etc. Ok, d'accord, merci. Voilà. D'accord, il pouvait dire merci, c'est tout. Il ne dit pas du tout, je vais te le donner. L'autre dit, mais non, c'est rien, 400. Il a compris le prix. Pourquoi il paye? Pourquoi il accepte de payer? Parce qu'il veut que Ephron soit sûr qu'il a fait l'affaire du siècle. J'ai roulé Abraham dans la farine, je lui ai vendu un truc qui ne valait pas. Qui valait rien du tout, je l'ai vendu pour 400 shekels. Et tout ce que les avot payaient, ils le surpayaient. Et en plus, il fallait trouver quelqu'un qui voulait vraiment bien lâcher la chose. Et c'est ça la difficulté, Yaakov. C'est pas que, bien sûr qu'il aurait pu, Yaakov était très riche, il pouvait laisser tomber ses parfums. Mais chaque chose qui avait été acquise, elle avait été très difficilement acquise, pas parce qu'on avait beaucoup travaillé pour ça, parce que c'est difficile d'avoir quelque chose qui est vraiment à soi. Quand la chose est vraiment à soi, on peut vraiment construire avec, se construire avec quelque chose qui est vraiment à soi et pas quelque chose qui est encore ça vient de chez machin, c'est encore, ça porte encore de la trace, etc. Il ne faut pas que les choses elles aient encore des traces. Anarchiquement, on avait demandé une fois à Rav Ovadia Yosef, Rav Ovadia Yosef, on lui a demandé si on pouvait utiliser les nigunim, les chansons goy, pour mettre des paroles juives dessus et les chanter à la synagogue. Alors il a dit on pouvait le faire à condition qu'on ait oublié que quand tu chantes cet air-là, les gens, dans leur tête, ce qu'ils chantent, c'est cet air-là et pas l'air de. Quand tu chantes, quelque chose sur l'air de la Marseillaise, il ne faut pas que ce soit les paroles de la Marseillaise qui soient dans ta tête quand tu chantes. Donc c'est cette idée-là, il ne faut pas qu'il y ait de traces. Tu peux prendre le nigoun, en fait. Il faut. Si vous prenez la messe en si de Bach pour la chanter, il ne faut pas que. Il reste quoi que ce soit des paroles de la. Et même son nom, de Benancy, etc. D'accord? Il ne faut pas que ça reste. Tu ne peux pas. Donc, ça, c'est ce que faisaient les Avot. C'est aussi la raison pour laquelle ils ne se marient pas avec des Cananéennes. Pourquoi? Parce qu'on ne veut pas qu'il y ait cette idolâtrie et cette trace. De ceux qui sont sur la terre d'Israël à un moment, à un autre moment, ça s'appellera Eretz Kenan. Mais on ne veut pas prendre des distances. On préfère des incestes à des mariages de ce type-là.
Et des puretés.
Il y a une. Oui.
La pure.
Ouais, mais... Oui, j'entends. Oui. Et donc, pardon. Il fallait commencer par le début, quoi. Il faut tout. Oui, oui, avec une façon cachée. Le Gaon, il dit que si on construisait un Bet HaKnesset complètement lishma depuis le début, il serait indestructible. Et c'est parfait. Il dit encore aujourd'hui, c'est-à-dire si on faisait ça aujourd'hui. Ça veut dire que là, on a acheté le terrain de façon absolument cachère et il y a absolument, il n'y a pas de magouille, il n'y a rien du tout, aucun truc, etc. Et tous ceux qui l'ont fait l'ishma, ils ne l'ont pas fait pour leur gloire personnelle, etc. Ce serait indestructible.
Alors, est-ce que c'est pas de là que viennent justement le problème de la Bérora et des Brachot que Jacob a acquis?
Oui, avec c'est, le problème, c'est qu'il les a acquis et que c'est pas reconnu par Esav. Ce qu'on aura gagné avec ce que Jacob gagne maintenant dans cette lutte, c'est qu'Esav reconnaît. Il abandonne vraiment tous les droits, en quelque sorte, là-dessus. Ok, c'est bon. Maintenant, c'est rétroactivement, il abandonne toutes ses exigences, toutes ses prétentions, etc. Et ça, c'est fondamental. Et c'est ça, Israël. Israël, c'est son nom quand il est reconnu. C'est-à-dire qu'en fait, il est parfait et reconnaissable. Reconnaissable et effectivement reconnu.
Mais quelle est la signification de ce combat physique?
Bon, je ne sais pas ce que c'est qu'un combat physique entre un homme et un ange, je vous dirais franchement.
Justement, c'est...
Je ne sais pas, je ne peux pas vous dire, je ne sais pas ce que ça veut dire. Tout ce qu'on voit, c'est que ça a fait de la poussière. Vous voyez, avec Ish Imos Lachon Avak, c'est un nuage, ça a soulevé un nuage de poussière. Dans un nuage de poussière, on n'y voit plus très clair, il y a eu une phase où ce n'est pas clair. La lutte elle-même, c'est une lutte dans laquelle on ne voit pas qui gagne, parce qu'ils sont dans un nuage de poussière. Il faut attendre que tout retombe, ou qu'il y en ait un qui touche la poussière, c'est dans le même sens que... Voilà, ils ont traduit par mordre la poussière. Enfin, un qui est à terre. À ce moment-là, on voit qu'il a perdu, enfin, ou il n'a pas gagné, quoi, surtout.
C'est vrai que vous êtes étonné, parce que c'est vrai que cette lutte, elle devrait représenter la lutte contre le Yitzhara, ou contre. Le fait qu'il a réussi à rester Jacob chez Laval. À être lui-même intègre sans comprendre que l'Israël se qualifie pour devenir Israël. Le fait de gagner une bataille.
Non, mais c'est ça la lutte. La lutte contre dont on parle, c'est de ça qu'il s'agit. Ça veut dire que vous disiez avant que le Malach il va tester Yaakov, c'est-à-dire qu'en fait il le teste à long terme, quoi. La lutte c'était je vais te tester jusqu'à la fin du temps de test, et tu as gagné. Ça veut dire, finalement, tu as gagné parce que je n'ai pas réussi à te faire tomber tout au long de la période de test.
Et pourquoi les choses ne s'arrêtent pas là?
Elles s'arrêteraient là si Jacob n'avait pas continué. Le problème, c'est que Jacob, il continue. Non, parce que ça, c'est pour la fin de l'histoire. Il va y avoir une histoire, il y a la poussière. D'accord. Entre-temps, il va y avoir... Ça, c'est la garantie que... Ok, c'est une façon, je vous ai dit, il me semble que c'est quelque chose qui permet de penser un futur, quoi. Parce que c'est presque pas pensable que le clan Israël réussisse dans sa démarche. Enfin, c'est complètement fou. Qu'est-ce que ça veut dire un bonhomme contre le reste du monde et tu penses que toi, tout seul, tu vas... C'est ce qu'Abraham va penser, quoi. À lui, tout seul, il va faire le travail pour le monde entier, ou le clan Israël, même aujourd'hui, qu'est-ce qu'il y a avec, on a bonne mine avec nous, je ne sais pas combien de millions de juifs dans le monde, tout compris, etc. Qu'est-ce que vous voulez, on va influencer le monde. Alors, d'une part, durant toute notre histoire, on voit bien que, bien qu'on soit quantité négligeable numériquement, etc., néanmoins, on joue un rôle assez important dans l'histoire. Incompréhensible, je veux dire, du point de vue du nombre de gens. Et de la...
Mais en fait,
ce
que la question
pose,
c'est une qualification.
Oui. C'est une qualification au sens où il a été testé et voilà, on a vu qu'il tenait la route. Quoi. Il tient la route jusqu'au bout. Alors, peut-être même, d'ailleurs, que, puisque ça a fait de la poussière, etc., Peut-être qu'il y a des moments où il est jamais que Yaakov. Cette lutte-là, il l'a fait en tant que Yaakov, on n'est pas sûr. C'est seulement parce qu'il va réussir qu'il mérite de s'appeler Israël. Quelque part, qu'Hachem accepte de mettre son nom, qu'elle, dans le nom du peuple, c'est seulement parce qu'on a réussi ultimement. Quoi. Oui, bien sûr. Parce que là-bas, c'est ça le grand problème d'Ishmaël, c'est qu'il a un nom fabuleux. Je ne sais pas si c'est. Bon, si on dit Yachar plutôt que Yachar ou bien Ishmaël, Yachar, Kel, ça veut dire les droits devant Hachem, Israël, ou bien Hachem entendra, Ishmaël. Qu'est-ce qu'elle est le plus beau nom? Yachar, c'est droit. La droiture. Il est Yachar. Le Sefer Bereshit s'appelle Sefer Yacharim. Oui, non, bien sûr. Je veux dire, si on ne lit pas Sarita, mais si je regarde Yachar Kel, à comparer avec Yishma Kel, lui, il lui donne ce nom de Kisarita. Maintenant, est-ce que Hachem il pense aussi que c'est à cause de ça qu'il lui donne ce nom-là? Tu as vaincu, tu as lutté et tu as vaincu. Tu as dominé. Un sar, c'est le même mot sar. C'est le prince, c'est-à-dire c'est celui qui domine.
Sarah.
C'est ma princesse. Sarah est ma princesse. Prince des Saves, c'est le roi, la culture des Saves. Il est traduit qui s'arrita imelokim vi manashim vatuchal. Tu as lutté et tu es venu à bout. Alors, on va expliquer un peu plus. Qui s'arrita dit nit goshashta ima elyonim viacholta lahem. Vima tachtonim viacholta lahem. Donc, tu t'es frotté avec ceux d'en haut, et tu as triomphé, et avec ceux d'en bas, et tu as triomphé. Qui sont ceux d'en haut? Ima Elyonim Zeh Amalach. Elyonim, ceux d'en haut, c'est l'ange. Rav Chama Bar Chanina, si tu veux, il dit. Jusque-là, on a l'impression que cet ange-là, il lui a dit, ouais, tu as lutté contre les anges, ou l'ange, et tu as gagné. On ne sait pas qui est l'ange. Maintenant vient Rav Chama, il dit, ça roche les Saves, aïa. L'ange en question, c'était l'ange des Saves. D'où est-ce qu'on le sait? De où Amar Lo ou de où? C'est la raison pour laquelle il lui a dit, quand Yaakov a rencontré Esav en chair et en os, il lui a dit Ki alken ra'iti fanecha akirot pnei Elokim. Voilà, je t'ai rencontré toi, j'ai vu ton visage littéralement, comme on voit le visage d'Elokim, je vais le traduire après. Esma pnei Elokim din afpanecha din. De la même manière que Pnei Elohim. Elohim, c'est l'Amidat Adin. C'est le nom divin qui correspond à l'Amidat de justice, à l'attribut de justice, de rigueur. La Panecha était aussi Din. Quand je vois ton visage, c'est aussi, je me suis confronté au Din. Ma Pnei Elohim, Veloi Raou Panay Rekam. Et de la même manière qu'il est dit, Hachem a dit que quand vous viendrez me voir, c'est la mitzvah de Ria, vous vous souvenez dans le Tragiga. L'Oiraou Panay Rekam, ils ne viendront pas les mains vides. On devait apporter un korban, Ria, pour ne pas venir au Beth Amikdash au cours des fêtes de pèlerinage, ne pas venir les mains vides. Afat, l'Oiraou Panay Rekam. Toi aussi, par rapport à toi aussi, on ne peut pas voir ton. Tu peux aussi. Je t'applique aussi le verset. vous ne verrez pas ma face les mains vides. C'est pour ça qu'il va lui donner toutes ces, tous ces cadeaux. Il m'a tartonné viochol talahem, c'est Esav et Aloufav. Ça, c'est Esav et ses princes. Alouf, ça veut dire Alef, Lachon Alef, les premiers, les princes.
Si on comprend Elohim dans le sens d'ange, mais là, justement, le Midrash peut comprendre dans le sens de Dieu.
Oui, tout à fait.
Mais c'est quand même un choquant de dire que qu'il est en train de lui dire je t'ai vu comme quand on voit Dieu, en comparaison
à la Midat Hadin. J'ai vu ton, l'ange des sabres représente pour lui la Midat Hadin. Ça, c'est les choses qu'on va essayer de, sur lesquelles on va essayer de réfléchir. Oui, non, il dit, parce que j'ai vu ton visage, et maintenant j'applique à toi aussi ce récam que, de même qu'à la Midat Hadin, on amène des, on vient pas les mains vides, d'accord? Et ce que j'ai vu, c'est ton ange qui représente la Midat Hadin. Ici, il y a une identification entre la Midat Hadin et le Sarosh et les Sav. Pardon? Dans ce passouk-là? Pas chez Esav? Non.
Non, dans chez l'autre passouk qui est cité là.
Ah oui, mais bien sûr, parce que Adon Hachem, Adon Hachem, ça c'est Hachem lui-même. De la même manière que quand on va voir Hachem, c'est et là il entend Pnei Elohim, c'est aussi Midat Hadin. Et donc on ne vient pas les mains vides, chez toi non plus on ne viendra pas les mains vides. Là-bas, oui.
Je dis que si on va voir.
Oui, mais ça, c'est le, parce qu'il a donné. Évidemment qu'on peut lire autrement. Nous, on fait du Midrash. On regarde ce que ce Midrash veut dire.
Non, mais
c'est une lecture, le Midrash. C'est pas la lecture, c'est une lecture. Bien. Alors, Oui, on va terminer juste ce paragraphe. Ima tarfonim veyochal talaem, ze Esav vealufav. Tu as lutté avec ceux d'en bas, c'est Esav et ses divisions, on dirait, ses princes. D'avoir acher, qui sarita im Elokim, atu she ikonin shelcha chakuka lemala. J'ai l'impression que la dernière lecture ici, elle lit. Bon, ils ont des problèmes de savoir comment on lit Sarita, mais j'ai l'impression que ici on lit. Vous savez que l'icône, l'image de Yaakov est sur le Kiseh HaKavod. Elle est sur le trône divin. Il y a quatre images, quatre représentations. Il y a un lion, il y a un taureau, un aigle et une figure d'homme. Et cette figure d'homme, c'est le visage de Yaakov. Et c'est ça que les anges vérifiaient quand Yaakov rêvait, l'histoire de l'échelle, ils vérifiaient que le bonhomme qui était en train de rêver, qui était en bas de l'échelle, son image, il avait le même visage que le visage qu'il y avait en haut. Les anges s'étonnaient de... Pardon ?
Une question.
Quoi ?
Une question.
Nous ?
Pourquoi c'est Yaakov et pas Adam Arishon ? Parce que Adam Arishon était plus grand que Yaakov, a priori.
Mais peut-être pas a posteriori. Yaakov, c'est Bechir She'Avot, c'est la... Il n'y a plus d'Adam Arishon après la faute, c'est terminus.
Ah.
Il dit, ton image est sur le... Et donc, Kisarita im Elokim, on a l'impression que tu t'es élevé et tu es avec Elokim. C'est pas que Elokim, c'était les ennemis, c'est les anges. Toi, tu étais avec Elokim contre en haut et en bas. C'est-à-dire, tu t'es fait reconnaître comme étant avec Elokim. On a reconnu que tu étais associé d'Hachem, c'est ce qu'il lui dit. On reconnaît en haut et en bas que tu es l'associé d'Hachem. Ton image est associée au trône divin, donc, que tu es associé toi avec Hachem. Alors reprenons un peu ce qu'il y avait de choquant dans cette partie-là. L'id goshesh, ça veut dire, donc tu t'es frotté à... Tu t'es frotté aux créatures d'en haut et tu les as vaincues, et avec celles d'en bas et tu les as vaincues. Tu t'es frotté au Imaïdionim Zeha Malach. C'est le Malach. Qu'est-ce que ça veut dire Zeha Malach? Qui c'est Zeha Malach? Est-ce que l'ange en question, ce serait l'ange des Saves? Mais ce serait l'ange des Saves qui dirait de lui-même, tu t'es frotté à moi, hein, et tu m'as vaincu. C'est lui qui parle. Donc quand il a dit ça, il a dit à Malach, on ne sait pas lequel c'est... Tu as vaincu l'ange, quoi, la notion, peut-être l'ange en général. Et alors maintenant, lui vient, Avrama, et dit, attends, c'est pas n'importe quel ange. C'est justement lui-même en tant qu'ange, il se dévoile à lui d'une certaine façon. On avait vu, déjà qu'il lui avait dit, l'ange s'est dit, je vais lui révéler. Qu'est-ce qu'il lui a révélé? Il lui révèle qu'il va avoir un autre nom, etc., et il lui dit... C'est intéressant. si on met bout à bout ce qui a été dit là-bas, c'est il lui a révélé qu'Hachem allait lui changer son nom et qu'il allait lui donner, lui, l'ange, il dit, moi je suis au courant qu'on va te changer ton nom, Hachem va te changer ton nom et je serai là, donc ça veut dire je vais accepter et on va te, tu vas être appelé Israël. Et donc il lui révèle qu'il va être appelé Israël. Il semble, l'ange lui, il sait seulement qu'il va changer de nom, il ne sait pas pourquoi il va être appelé Israël. On a l'impression que l'ange, lui, maintenant, il va se faire sa petite explication. Il dit, Israël, pour moi, je le lis, Sarita im Elokim batuchal. La chaune Israël, Sarita. C'est-à-dire, tu as lutté. On peut aussi dire, tu es un prince comme Sarita. Israël, ce n'est pas obligatoire. On peut aussi dire que c'est Yachar, on peut dire d'autres raisons. Lui, l'ange, il dit que c'est Kisarita. Jérémy, tu as le pasouk devant toi. Est-ce que Hachem, quand il dit à Yaakov qu'il l'appelle Israël, il lui dit quelque chose? Quand c'est Hachem qui lui dit, après plus bas, dans la suite, c'est Hachem qui lui dit ton nom sera Israël. Tu tournes les pages jusqu'à ce qu'on y arrive.
Quand il arrive à Shrem. C'est comment on peut le dire en fait?
Allô?
C'est que le monde peut lui dire.
Oui, je pense que c'est là-bas, quand il arrive à... Il lui dit... C'est pas tellement plus loin. Donc Hachem ne dit pas pourquoi il l'appelle pourquoi il l'appellera Israël. Donc, l'ange il ne savait pas pourquoi. Hachem lui-même ne nous a pas dit, on ne sait pas. La Torah ne nous dit pas pourquoi il l'appelle Israël. Tout ce que nous en savons, c'est une interprétation d'un ange. C'est jamais qu'une, c'est la version angélique c'est sa traduction à lui. C'est pas dit qu'elle fait autorité. Elle fait autorité chez lui, mais pour nous. Si Hachem avait voulu lui dévoiler que c'est à ce titre-là qu'il l'appelle Israël, il aurait dû le lui dire. Il ne lui dit pas. Rachid dit quelque chose là-bas, je ne me souviens plus.
Rachid lui dit, il aurait dit, Shimron
Yaakov,
la
chaune d'Anava,
et là, la
chaune Sarah, c'est Nagui. Oui, tu es un prince. Donc c'est tout, tu es un prince.
Mais comment on peut définir celui qu'on appelle l'ange des Sables? Il est quoi? Il est l'intermédiaire entre Esav et
oui.
Hachem?
Oui, oui.
Il est le...
Moi je vous dis... J'appelle ça la culture des Sables.
La culture?
Culture des Sables. Parce qu'Hachem, tout ce qu'il donne, Hachem le donne toujours aux différents peuples en fonction de leur culture. C'est leur culture qui formate ce qu'ils sont capables d'entendre.
Ouais.
Et de recevoir. C'est mon idée. Oui.
Vous avez dit qu'un ange, de toute manière, il n'y a pas de temps pour lui. Il faut aussi bien le futur, le passé, le présent. Donc, quand il a dit ça, c'était cette réalité.
C'était?
C'était la réalité, quel que soit le temps.
Non, mais lui, il pense comme ça. L'ange, il a la compréhension d'un ange. C'est pas Hachem, l'ange. Hachem n'a pas dit pourquoi. Mais l'ange, il sait qu'Hachem... Il sait qu'il sera présent quand Hachem va nommer, renommer Yaakov, il va le nommer Israël. Et il le lui dévoile avant l'heure, quoi. Ok, alors... il interprète. Moi, ce que j'en sais, c'est ce que j'ai vécu. Tu m'as battu. Alors, c'est peut-être ça la raison.
Mais peut-être à dire que l'ange, il aurait eu, par exemple, de combat, deux messages possibles, s'il avait pas, s'il avait gagné le combat, par exemple.
Oui.
Il aurait pu avoir un autre message à donner à Jacob.
Oui, en théorie, oui. Mais on peut aussi dire que cette bataille avec l'ange, c'était seulement la concrétisation de l'état de perfection de Yaakov. Il y a des choses, de la même manière que quand Hachem éprouve Abraham, c'est pas parce qu'Hachem sait pas ce dont Abraham est capable, c'est une révélation pour Abraham lui-même. Et là aussi, c'est, il lui révèle à lui-même, à la limite, quand il lui dit ça, ce n'est pas une récompense, c'est je te révèle, je te dis ce que tu viens de faire, en quelque sorte. Tu n'es peut-être pas conscient de ce que tu as fait, toi, tu t'es battu avec un berger, avec un magicien, avec un bandit, etc., comme on a vu au début. C'est comme ça qu'il l'a vécu, Yaakov, a priori, d'après le début du Midrash. Et maintenant, l'ange lui dit, attends, je ne sais pas ce qui s'est passé. C'est bien autre chose que ce que tu croyais qui vient de se passer. Mais c'est peut-être simplement une façon de mettre concrètement Yaakov au courant de ses possibilités, quoi. Il a pris la mesure de ses capacités, des potentialités qui étaient les siennes. C'est comme ça une épreuve d'Hachem, c'est pas du tout qu'Hachem a besoin de savoir ce qu'il en est, il sait ce qu'il en est. C'est uniquement pour nous. Les épreuves, elles sont pour que nous prenions conscience de ce. Voilà où tu en es.
Et par
le
fait que finalement
il ne laisse pas partir. Attends, un instant, parce qu'on n'y est pas encore. C'est les scoops, je ne vais pas dire les scoops, tu sais bien, je ne dis jamais les scoops. Qu'est-ce que vous voulez dire?
C'est pareil un peu contradictoire, parce que
s'il
avait une chlémoute, il aurait dû laisser partir.
C'est ça, non, c'est. Quand même, il y a la chlémoute et ça marche quand même pas. On voit très bien à la fin de sa vie, il voit le quetz clairement, et quand il veut le dire, c'était une erreur probablement de vouloir le dire, ben, il ne le voit plus. Bon, il veut dévoiler la fin des temps à ses enfants. Et donc il la voit, sinon qu'est-ce que tu veux dévoiler? Et quand il s'installe pour le leur donner, il ne voit plus rien. Hachem ne voulait pas qu'il. C'était une erreur. S'arrêter là. On reprendra ce morceau-là, je ne considère pas qu'on a vraiment complètement terminé.
Merci beaucoup. Shabbat shalom.
Shabbat shalom.
Shabbat shalom.
Pardon ?
Il y a possiblement Minyan.
Ah bon, alors. Il y a Minyan, paraît-il. Donc on fait.